Des sous et des hommes. Une émission proposée et présentée par Pascal Fourier. Et cette semaine, nous allons nous intéresser encore au cas de France Télécom avec Pierre Calfa, qui est l'ancien secrétaire général du syndicat Sud. En fait, ce qui m'intéressait dans le cas de France Télécom, c'est que peut-être ça permettait de comprendre l'évolution d'autres entreprises de services publics notamment. Je vous rappelle le contexte que nous avait rappelé Pierre Calfa la semaine dernière. France Télécom est une entreprise détenue à 55% environ par l'État et qui s'est lancée dans une politique d'acquisition d'entreprises européennes du secteur des communications dans le cadre de la libéralisation de ce secteur. Et du coup, cette entreprise, France Télécom, a été confrontée à un endettement absolument faramineux d'environ 70 milliards d'euros. Et du coup, le cours des actions de France Télécom s'est effondré. On peut se poser la question de savoir si finalement cela n'amènera pas une privatisation de France Télécom. Alors, pour le contexte plus particulier, j'étais dans les studios, pas dans les studios d'Ali, d'ailleurs, j'étais plutôt dans les locaux de Sud avec Pierre Calfa, qui essayait, avec beaucoup d'abnégation, d'essayer de m'expliquer les choses. C'est donc la suite de l'entretien que nous avons eu il y a quelques temps, dont vous avez pu entendre la première partie la semaine précédente. Comme d'habitude, je n'y comprenais pas grand-chose et donc Pierre Calfa essaye de m'aider.
Il y a un petit truc que je n'ai pas compris, c'est tout à l'heure vous avez dit France Télécom est une boîte finalement qui marche très très bien, qui dégage, alors, je ne sais pas s'il faudrait dire bénéfice, mais en tous les cas ils font de l'argent d'une façon ou d'une autre.
Et pourtant, pourtant
l'action ne vaut rien. Là je ne comprends vraiment pas comment ça marche. Je croyais que c'était la preuve quand une action était haute que l'entreprise justement marchait bien. Donc l'action de France Télécom devrait être très haute.
Bah, le problème c'est que comme je vous l'ai dit, la bonne santé de l'entreprise, elle vient que c'est une entreprise d'abord qui est sur un marché, qui a un marché porteur, hein, les télécommunications, qui reste largement, dont la croissance est largement supérieure au taux de croissance du PIB. Hein, bon, donc c'est un marché, on n'est pas du tout dans un marché en régression de ce point de vue-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est que disons que France Télécom est une entreprise performante au sens où elle est performante technologiquement. Hein. C'est-à-dire, alors, France Télécom a encore un des réseaux qui est les plus modernes du monde, dont même si la qualité de service baisse parce que la direction ne voit pas l'intérêt de maintenir une qualité de service trop haute, que ça lui coûte trop cher, mais néanmoins c'est encore un des réseaux les plus performants du monde, etc. Bon. Donc, mais le problème c'est que cette activité-là est totalement obérée par un poids de la dette qui, en fait, l'empêche d'avoir des perspectives sur le moyen terme. Et notamment, enfin, sur le court et moyen terme, d'ailleurs, pas seulement sur le moyen, sur le court et moyen terme. Parce que quand on a une dette de 70 milliards d'euros avec une charge de la dette, dont j'ai plus le chiffre en tête, mais qui doit être de 4-5 milliards d'euros par an.
Charge de la dette, c'est ce que
c'est les frais financiers.
Ah non, c'est les frais financiers.
C'est les frais financiers générés par la dette. Hein. Bon. C'est pas le capital de la dette, c'est les frais financiers générés par la dette. Et là, cette année, France Télécom doit rembourser 15 milliards d'euros de capital de la dette. Hein. Bon. Donc, quand vous avez des montants de ce type-là, bon, c'est clair que il faudrait que pour que France Télécom arrive à se sortir de cette situation financière, bon, qu'elle dégage ce qu'on appelle un cash flow opérationnel tel que c'est totalement impossible, hein, d'où la situation aujourd'hui très mauvaise de l'entreprise sur le plan financier. Bon. Si demain l'État décide de payer la dette de France Télécom, l'affaire est réglée. Hein, on repart de zéro. Bon, ce qui vient de rentrer pas, c'est 70 milliards, c'est impossible. Mais il n'y a pas de problème, hein, de l'entreprise en tant que telle. Hein. L'échec de France Télécom, c'est avant tout l'échec d'une stratégie. Bon. Qui vise à une stratégie d'expansion à l'échelle internationale. Bon. Si et l'essentiel des bénéfices. Pas l'essentiel, alors la totalité des bénéfices se sont faits aujourd'hui sur le territoire national. Bon, la quasi-totalité, je pense, hein, bon, oui, bah, ou la totalité même, hein, des activités à l'étranger sont déficitaires. Donc, et c'est d'ailleurs le pareil pour EDF aujourd'hui. Hein. Bon, il y a des cas assez similaires là entre EDF et France Télécom. Bon. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans une sorte de paradoxe, de paradoxe au sens où on a une entreprise qui est plutôt en bonne santé opérationnelle, mais qui est totalement plombée sur le plan financier.
C'est peut-être une question que j'ai déjà posée, mais vraiment c'est parce que je comprends réellement pas pourquoi on cherchait à s'étendre comme ça, notamment dans les pays européens. Je vois pas du tout l'intérêt. Oh, parce que France Télécom, à la limite, c'est un bout des bonnes vieilles PTT, probablement.
Disons qu'on est on est passé d'un système qui était un système de service public sous monopole public à un système ouvert, totalement concurrentiel. Bon. Quand vous avez un système concurrentiel, ça veut dire que il y a des gens qui viennent prendre des parts de marché chez vous. Et donc la réaction logique, je dirais basique, hein, c'est de faire comme eux, c'est-à-dire tout le monde se copie. Et dire, bon, par exemple, British Telecom essaye de prendre des parts de marché à France Télécom en France, donc on va prendre des parts de marché en Angleterre à British Telecom. Et ainsi de suite, pour Deutsche Telekom, Telekom Italia, Telefonica, etc. Donc chacun essaye de prendre des parts de marché chez l'autre. Bon, et en bout de course, évidemment, on peut dire le marché grossit un peu, hein, bon, mais c'est quand même un jeu qui est pour beaucoup à somme nulle. Hein, bon, même si, bon, comme le marché des télécommunications est en croissance, chacun peut penser que, en bout de course, comme le marché croît, eh ben, le chiffre d'affaires croît, ce qui est le cas. Donc c'était ça l'idée, hein, de départ. Donc tous les opérateurs se sont copiés et la stratégie était la même. C'est-à-dire on s'étend à l'échelle internationale et on prend des parts de marché. Bon, c'est une stratégie qui a globalement échoué pour tous les opérateurs. C'est-à-dire que bon, France Télécom étant d'ailleurs dans une situation similaire aux autres opérateurs, hein, faut pas croire que c'est pas, il y a pas d'exception France Télécom de ce point de vue-là. Hein, bon, ils sont peut-être un peu plus endettés que les autres, mais enfin tous les opérateurs aujourd'hui sont très très endettés. Le seul qui s'en sort à peu près bien, c'est Telecom Italia qui était trop faible pour prendre des parts de marché à l'étranger. Bon, donc comme eux, ils étaient trop faibles pour prendre les parts de marché à l'étranger, tout le monde pensait qu'ils allaient disparaître, en fait ils n'ont pas du tout disparu, ils se portent très bien. Bon. Mais c'est les seuls. Bon, tous les autres se trouvent dans une situation très comparable à France Télécom. Le pire étant d'ailleurs British Telecom, qui était présenté il y a encore quelques années comme le number one des télécommunications, celui qui allait tout casser, qui allait devenir et qui est dans un état de déconfiture totale, qui a éclaté en plusieurs sociétés, bon, etc. Donc le cas de France Télécom n'est pas isolé.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Pierre Calfa, qui est l'ancien secrétaire fédéral du syndicat Sud. Et Pierre Calfa tente de m'expliquer les choses. Tendez bien l'oreille, c'est passionnant et on peut peut-être bien comprendre qu'en vantant les bienfaits de la libéralisation des secteurs des communications, on mène le bon peuple en bateau.
Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que le marché des télécommunications est encore pour beaucoup un marché national. Et ce qui est internationalisé dans les télécommunications, c'est le marché pour les grandes entreprises, les très grosses entreprises. Bon, les grandes entreprises, et qui a un marché qui est structurellement déficitaire. Bon. Au sens où quand vous avez une très très grosse facture, quand je dis une très très grosse facture, c'est plusieurs millions d'euros, bon, des fois, plus que plusieurs millions d'euros, des fois des dizaines de millions d'euros, bon, ben, vous pouvez faire un chantage à la baisse des tarifs. C'est-à-dire, vous allez voir France Télécom, vous dites, moi j'ai telle facture, le montant de telle facture, donc je veux une baisse de temps sur mes tarifs, sinon je vais voir l'opérateur à côté. Bon. Et France Télécom s'aligne. Bon. Et donc vous avez, ça se passe pour tous les opérateurs. Donc la concurrence, si vous voulez, elle joue réellement pour ce type d'opérateur-là. Hein, c'est-à-dire que, bon, cette activité, qui a un réel marché international, c'est une activité qui est structurellement déficitaire.
Et donc, cette histoire de concurrence, parce qu'on a essayé de nous faire croire, ou peut-être que c'est juste, on ne sait rien, qu'en libéralisant le marché des télécoms, donc nécessairement, les prix des communications allaient baisser.
Et ben, en fait,
pour les particuliers, j'entends.
Oui, en fait, ce qui a baissé, c'est, quand on regarde les choses, bon, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle un rééquilibrage tarifaire. C'est ça la, for- formule technique en la matière. C'est-à-dire que quand on regarde, hors mobile, hein, parce que la tarification des mobiles est à part, mais quand on regarde la facture moyenne d'un abonné, hein, d'un particulier, c'est, elle est toujours constituée de la façon suivante. 30%, c'est le prix de l'abonnement. 60%, c'est ce qu'on appelle les communications locales. Bon. Et 10% les communications longue distance, soit nationales ou internationales. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un rééquilibrage tarifaire, c'est-à-dire que le prix des communications nationales, longue distance, nationales et internationales a baissé très fortement, extrêmement fortement. Par contre, le tarif de l'abonnement a augmenté de façon très importante, et le tarif des communications locales a aussi augmenté, hein, c'est-à-dire au sens où on n'a pas répercuté les gains de productivité qui avaient été faits. Et on a changé le système de tarification, donc personne n'y comprend plus rien, donc pour masquer l'augmentation des communications locales. Donc en fait, bon, ce qu'il faut voir, c'est que pour les entreprises qui génèrent essentiellement, ce sont les entreprises qui génèrent essentiellement les communications longue distance, nationales ou internationales. Là, les tarifs ont baissé de façon très, très importante. Par contre, pour les particuliers, hein, qui eux ont un tarif d'abonnement qui a beaucoup augmenté, puisqu'il a dû augmenter de 150% en quelques années, ou les tarifs des communications locales qui ont aussi augmenté, où eux ils utilisent les communications locales en grande partie, hein, les communications locales sont générées environ à 70% par les particuliers, les factures n'ont pas baissé, bien au contraire.
Est-ce que ça veut dire finalement que la logique sous-jacente de libéralisation du marché des télécoms finalement était soumise au, alors je sais pas si ça allait jusqu'au lobbying, enfin presque, des grandes entreprises finalement. Est-ce que ça répondait à cette nécessité pour les grandes entreprises seulement?
Absolument. C'est-à-dire que de toute façon, tout le bilan, on peut dire là, pas seulement d'ailleurs des télécommunications, tout le bilan des libéralisations, des ouvertures à la concurrence sur tous les secteurs en Europe, hein, le bilan c'est facile à faire. C'est une augmentation pour les particuliers, une baisse pour les entreprises. Voilà, ça c'est dans tous les secteurs confondus, que ce soit la poste, les télécommunications, l'énergie, c'est uniforme. C'est-à-dire à chaque fois, c'est le même processus. C'est en fait une ce qu'on appelle le rééquilibrage tarifaire. C'est la formule qui vise à masquer ce qui est en train de se passer. Voilà, un rééquilibrage tarifaire.
Est-ce que finalement, on pourrait penser que derrière ce que vous avez dit là sur France Télécom depuis le début, est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose par exemple avec EDF, d'une part, peut-être à terme un jour ou l'autre, la SNCF, enfin globalement toutes les grandes entreprises?
Ah, mais je pense qu'on est dans le processus tout à fait similaire, hein, et notamment de la part d'EDF qui a eu des investissements tout azimut, hein, comme l'a fait France Télécom à l'étranger, hein, puisque EDF est maintenant l'entreprise d'énergie en Europe qui est la plus implantée à l'étranger, qui est une véritable multinationale avec un comportement totalement prédateur à l'étranger. Bon. Donc on est dans la même situation. Aucun des investissements d'EDF à l'étranger n'est rentable, ne dégage des bénéfices, sont tous à perte. On est dans la même illusion de l'internationalisation et d'une stratégie qui vise à transformer un opérateur de services publics en multinational, qui a échoué à France Télécom et qui évidemment échouera dans le cas d'EDF, hein, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Alors bon, la direction d'EDF semble avoir compris ça, donc ils ont tout arrêté là aujourd'hui, parce que leurs comptes sont totalement plombés, donc ils ont tout arrêté, mais en fait la logique, hein, et la stratégie qu'ils avaient mis en place était la même. Hein.
Finalement, quelle peut être la réaction alors des syndicats, de la population? Je veux dire, est-ce qu'il y a une possibilité pour des citoyens qui seraient opposés à finalement au bradage général au moins d'un certain nombre de services publics de s'opposer à cela? Parce que ça a l'air d'être parti complètement là.
Il n'y a pas d'autre solution que la création de rapports de force. Bon. C'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas dans la capacité d'avoir des mobilisations de masse sur la question, eh bien les politiques continueront comme auparavant. C'est-à-dire que là, on est dans une sorte de bras de fer, et pour le moment, on a été sur cette question-là plus faible que nos adversaires.
Voilà, c'était Des Sous et des Hommes, et on n'a pas pu résister au fait d'avoir vraiment envie de vous passer ce titre du groupe Trio, qui s'intitule donc France Télécom. Comme il me reste aujourd'hui exceptionnellement un petit peu de temps, je me permets de vous signaler la parution d'un certain nombre de brochures qui peuvent nous intéresser. En particulier, j'attire votre attention sur un numéro passionnant de Manière de voir, qui est le supplément du Monde diplomatique. et leur dernière livraison s'appelle Le défi social, et c'est vraiment absolument passionnant. Notamment, il y a un texte très intéressant d'un Allemand, si j'ai bon souvenir, sur les syndicats dans la mondialisation, un article absolument remarquable. Par ailleurs, vous savez qu'on peut toujours lire les Alternatives économiques, qui est un petit journal qui paraît tous les mois. Cette fois-ci, ils ont fait paraître d'une part un hors-série sur la protection sociale qui permet de comprendre ce que c'est, notamment la sécurité sociale, comment elle s'est construite, et c'est vraiment intéressant. Par ailleurs, si vous voulez vous former en économie, le même Alternative économique a fait paraître un petit guide pratique qui s'appelle « L'essentiel de l'économie », dans lequel vous pourrez retrouver les titres des meilleurs livres pour se former, des sites internet, les endroits où on peut trouver les principales données sur l'économie. Et c'est vraiment un très bon petit bouquin qui peut nous aider, chacun d'entre nous, à nous former. Et pour nous, vous pouvez toujours nous retrouver sur www.dessousetdeshommes.org avec un tiret entre chaque mot. Et sur notre site, vous pourrez trouver en particulier, j'attire votre attention là-dessus, à très brève échéance, parce que pour l'instant ça n'y est pas encore, le texte de Jean-Marie Arribet, enfin plutôt la transcription de l'émission de Jean-Marie Arribet, émission qu'il avait faite avec nous en avril de l'année dernière, sur les retraites. Dans le contexte actuel, il me semble particulièrement pertinent de s'intéresser à ce que dit cet économiste qui a une profondeur de pensée et une logique assez impressionnante. Autrement, vous pouvez toujours retrouver l'émission qu'il a faite avec moi sur le site On Écoute, donc sur www.dessousetdeshommes.org. Comme j'ai toujours encore, je crois, un tout petit peu de temps, je me permets de remercier publiquement trois de mes auditeurs, Thomas, Alexandre et Gaël, qui ont tous participé à l'élaboration du site, soit dans la partie technique à laquelle je ne comprenais rien, le point de vue informatique, soit, et c'est un travail de galérien, les 7 ou 8 retranscriptions que nous a déjà fait Thomas. Si vous aussi, vous voulez nous aider à retranscrire des textes, des émissions, pardon, ces retranscriptions se retrouveront sur le site, vous pouvez le faire en m'écrivant à pascal.fourier@libertysurf.fr.